Gaston Bachelard, Radio. Aujourd'hui, un psychisme surveillé.
Les cosmologies philosophiques n'ont plus cours. Toute cosmologie est désormais inséparable d'une organisation mathématique. C'est là un fait humain nouveau.
Modelage. Rêve d'enfance, rêve qui nous rend à notre enfance. On a souvent dit que l'enfant réunissait toutes les possibilités. Enfant, nous étions peintres, modeleurs, botanistes, sculpteurs, architectes, chasseurs, explorateurs. De tout cela, qu'est-il devenu ? Il y a cependant un moyen, au centre même de la maturité, de retrouver ces possibilités perdues. Un moyen, quoi ? Je serais un grand peintre ? Oui. Vous seriez un grand peintre quelques heures par jour. Je ferais de grandes œuvres? Oui. Vous feriez de grandes œuvres merveilleuses, des œuvres qui vous donneraient à vous les joies directes de l'émerveillement, des œuvres qui vous ramèneraient au temps heureux où le monde émerveille. Ce moyen, c'est la littérature. Il n'y a qu'à écrire l'œuvre peinte. Il n'y a qu'à écrire la statue. La plume à la main, si seulement nous voulons être sincères, nous retrouvons tous les pouvoirs de la jeunesse, nous revivons ces pouvoirs comme ils étaient dans leur naïve confiance avec leur joie rapide, schématique, sûre. Par le biais de l'imagination littéraire, tous les arts sont nôtres. Un bel adjectif, bien placé, bien éclairé, sonnant dans le juste accord des voyelles, et voilà une substance, un trait de style, voilà un caractère, un homme. Parler, écrire, dire, raconter, inventer le passé. Se souvenir, la plume à la main, avec un souci avoué, évident, de bien écrire, de composer, d'embellir, pour être bien sûr qu'on dépasse l'autobiographie d'un réel advenu et qu'on retrouve l'autobiographie des possibilités perdues, c'est-à-dire les rêves même, les rêves vrais, les rêves réels, les rêves qui furent vécus avec complaisance et lenteur. L'esthétique spécifique de la littérature est là. La littérature est une fonction de suppléance. Elle redonne vie aux occasions manquées. Tel romancier, par exemple, par la grâce de la page blanche, ouverte à toutes les aventures, est un don juan comblé. Mais revenons à nos images. Gaston Bachelard, la terre et les rêveries de la volonté.
Oui. Revenons à nos images, et par exemple à celles que les philosophes et les savants se faisaient autrefois de l'atome, petite boule dure, grain de poussière dansant dans un rayon de soleil. Gaston Bachelard qualifie ces conceptions de naïvement réalistes. Le réalisme immédiat, dit-il, est une philosophie trop pressée. Il faut s'en défaire pour accéder à un autre mode d'approche du réel, scientifique celui-là, et inséparable d'une organisation mathématique. Sur le réalisme naïf de l'atomisme ancien et sur la synthèse des mathématiques et de l'expérience, Gaston Bachelard a prononcé deux causeries. Elles ont été enregistrées le 14 janvier 1948 et le 16 décembre 1949.
Seule la pensée et le travail scientifique peuvent nous débarrasser du réalisme naïf et nous permettre de fonder un réalisme véritable. Voyons donc comment se présentent les caractères fondamentaux de l'atomisme naïf. Dans ses premières formes, l'atomisme est lié à la connaissance par les sensations. Sans doute, les atomes seront supposés si petits qu'ils échappent à notre vue, à notre toucher, à notre sens du poids, mais ils devront quand même recevoir leur caractère distinctif des corps que nous voyons, des corps que nous touchons, des corps que nous pesons. les atomes d'une substance sucrée devront être des atomes doux. On leur attribuera la forme ronde. Ainsi, la douceur sous le palais et la douceur entre les doigts seront deux arguments sensibles pour affirmer que les atomes du miel sont ronds. Au contraire, l'acide a une saveur piquante. On dira qu'il pique la langue. Donc, son atome a des pointes. Un corps astringent dessèche la bouche. Il absorbe la salive. Donc, il a des pores. Il faut se le représenter comme une minuscule éponge. Pour Gassendi, ce philosophe français qui, au XVIIe siècle, remet en lumière l'atomisme d'Épicure et de Démocrite, le froid est une substance. Il y a un atome de froid. Et puisque le froid pique les doigts, son atome a la forme d'un tétraèdre, d'une petite pyramide à quatre pointes. Les atomes apparaissent donc bien comme les images d'un véritable sensualisme. Non seulement l'atomisme naïf est une doctrine de la connaissance qui professe que toutes les connaissances viennent des sens, mais il veut que toutes les connaissances s'expriment dans le langage des sens. Voici comment, en 1706, le chimiste Homberg explique l'expérience qui sera désignée 80 ans plus tard, quand la chimie se constituera comme une science, par Lavoisier, comme l'oxydation du mercure. Je cite donc le livre de Homberg. Les parties du mercure étant devenues hérissées par le lardement de la matière de la lumière, nous pouvons nous les représenter comme des châtaignes couvertes de leur coque verte et hérissée, qui se soutiennent plutôt les unes les autres que de rouler sur un plan incliné, comme elles feraient si elles étaient des boules rondes et polies. Et, dans cet état, le mercure n'est plus fluide, étant changé en une poudre rouge. C'est cette poudre rouge que l'on appelle maintenant le cinabre. Poudre rouge dont les petits grains, collés les uns contre les autres par leurs propres hérissons, composent de gros morceaux assez durs et de figures irrégulières, comme feraient les coques hérissées des châtaignes si on les pressait les unes contre les autres. Comme ces points, continue le texte, qui rendent chaque grain du mercure hérissé sont une matière pesante, le mercure, dans cet état, augmente de volume et pèse plus qu'il ne faisait lorsqu'il était encore coulant. On voit bien dans ce texte que l'auteur est emporté par ces images et qu'il a perdu tout contact avec l'expérience scientifique. Voilà ce que donne un réalisme trop pressé, un réalisme trop attaché aux données sensibles. En fait, la science moderne parviendra à révéler des structures intimes, mais la science moderne le fera avec des moyens adéquats, avec des expériences de haute technicité, comme l'examen des substances chimiques par les rayons X, par le microscope électronique qui est encore plus révélateur. La science moderne prouvera donc que les substances chimiques sont des organisations géométriques d'atomes. Nous développerons par la suite tous ces problèmes et nous montrerons précisément l'importance de cette géométrie intime. Mais puisque nous nous donnons pour méthode, dans ces courtes conférences, de profiter de toutes les occasions pour juger philosophiquement les doctrines scientifiques, nous devons souligner dès aujourd'hui, en conclusion de cette petite causerie, la grande différence qu'il y a entre un réalisme naïf qui veut assembler immédiatement les données des sens et le réalisme lentement et patiemment élaboré de la science contemporaine qui parcourt un long circuit de théorie qui ne peut comprendre l'expérience que sous le couvert de méthodes expérimentales très étudiées et par conséquent par un effort rationnel avant de fonder le réalisme technique que la chimie moderne peut développer.
C'est fondamentalement une épistémologie historique.
Jean Toussaint de Santy.
C'est une épistémologie qui s'efforce de montrer comment les champs de rationalité différenciés se constituent. Et il l'a fait en s'intéressant à deux choses. Premièrement, dans sa thèse, ce qu'on appelle la connaissance approchée, les procédures qui permettent d'apporter la précision de la rationalité. Et deuxièmement, il s'est intéressé à la physique de l'atome, ce qui est le plus étranger en apparence aux formes usuelles de la perception des objets que nous appelons objets du monde. Or, ce qui m'intéresse chez Bachelard, c'est qu'il a pris ce parcours dans toute son étendue. Il n'a pas négligé les formes les plus enracinées de l'imagination de la matière. Bien au contraire, il a réfléchi d'une façon tout à fait profonde sur la prise en charge que l'homme pratique des éléments, du feu, de l'air, de l'eau. Il a analysé tout cela au niveau le plus profond, au niveau poétique. Et du même mouvement, il a décrit le point d'aboutissement extrême des exigences les plus subtiles, les plus raffinées et les plus techniciennes de la rationalité instruite.
Et c'est-à-dire que devant un même objet, il a décrit toutes les attitudes possibles.
Bien entendu, il avait bien conscience que ce que on appelle objet est constitué de couches d'expériences stratifiées, mais non absolument hétérogènes. Différentes, mais cependant en un certain point rassemblées. Bon, ainsi, par exemple, ce fameux concept qui nous paraît tout à fait élémentaire de la masse. Bien, la masse, c'est d'abord ce que je sous-pèse. La masse, c'est ce que je porte sur mon dos. La masse, c'est aussi la masse de mon corps, non pas le poids qu'il a en mesuré. Selon une unité de masse, mais la conscience que j'en ai, la conscience de sa présence au monde, dont je dis qu'elle est massive, en ceci que elle m'accompagne toujours, que je ne m'en débarrasse pas, que je sens le poids du corps.
Et chacun, dit Bachelard, a de cette masse une appréhension qui dépend de son expérience personnelle. Je crois que lui explique comment lui, il a une conception particulière de la masse parce qu'il a été employé des postes.
Il a été employé des postes.
Et que donc, il a pesé des lettres.
Paquets, il a eu des paquets entre les mains. Oui. Et avant même de les peser, il les sous-pesait, comme on dit, n'est-ce pas? Bon. Oui. Et le sous-peser, le fait de sous-peser, c'est pour ainsi dire une relation immédiate entre la posture du corps, la chose même que l'on soupèse. Bon, mais puis masse, c'est aussi ce qu'on appelle un coefficient d'inertie, c'est-à-dire un objet, pas encore, mais tout à fait abstrait. Un objet que l'on ne peut repérer déjà que dans le champ d'une théorie. Bon, alors la question est fondamentale de la philosophie des sciences, c'est de bien comprendre la relation interne entre ces couches d'expérience, voir qu'elles ne sont pas absolument hétérogènes, puisque finalement c'est toujours du phénomène de la masse qu'il est question, mais que, en dépit de leur non-hétérogénéité, elles sont cependant distinctes et antagonistes. Et c'est cela, cette distinction dans l'antagonisme, que Bachelard s'est efforcé de penser en construisant, pour ainsi dire, le profil à la fois existentiel, lorsqu'il s'agit de l'air, de l'eau, du feu, et épistémologique, lorsqu'il s'agit des concepts plus élaborés de ce que nous appelons l'objet.
Mais il y a un moment dans ce cheminement où tout d'un coup il faut abandonner, parce qu'il y a vraiment antagonisme, il insiste sur le terme d'antagonisme, enfin, où il faut abandonner l'aspect réaliste des choses.
Oui,
et il insiste sur le fait que, à partir d'un certain niveau de scientificité, il n'y a plus réalisme.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger, les champs d'expérience. Bon, exemple fameux, parce que il est facile, en mécanique atomique, subatomique, mécanique quantique, comme on dit, nous avons tendance, du point de vue de l'imagination, à imaginer ce que nous appelons la particule comme un petit objet. Bon, c'est comme une boule de billard, disons, mais très petite, tout à fait petite. Ben oui, mais ça n'est pas ça du tout. Si nous gardons l'image et si nous réalisons l'image du corpuscule petit, très petit, nous ne comprenons rien du tout à ce qui constitue le fond des choses dans la mécanique quantique. Nous comprenons pas exactement de quoi il est question. Donc ici, il faut se débarrasser de ces formes d'imagination. Mais se débarrasser de ces formes d'imagination ne veut pas dire que ces formes d'imagination n'aient pas été à un moment donné, du point de vue de la genèse et de la formation de l'esprit scientifique, importantes. Elles l'ont été, mais on les a repoussés. Une chose est se représenter, autre chose penser scientifiquement. Penser scientifiquement, ça suppose toujours l'usage d'instruments rationnels, élaborés, abstraits, et donc, pour tout dire, mathématisables, ou mathématiques.
Mais justement, pour revenir à ce corpuscule dont vous parliez tout à l'heure, qui n'est pas donc le grain de poussière qui vole, qu'on peut voir dans le soleil, comme dirait, dans un rayon de soleil, comme dirait Lucrèce, c'est quoi? Alors, c'est un objet mathématique.
Voilà, le Bachelard, le grand mérite de Bachelard a été de faire une analyse beaucoup plus fine. Il ne dira pas que le réel est un objet mathématique. Il dira qu'on ne peut penser ce qu'il y a de plus réel, c'est-à-dire finalement de plus étranger à l'homme, de plus donné, de plus préalable à l'homme qu'en utilisant les instruments mathématiques les plus abstraits. Il ne dira pas que la fonction d'onde est la réalité, mais il dira que écrire une fonction d'onde est le moyen momentanément et à un moment donné a été à un moment donné, et il demeure encore, le moyen le plus sûr de rendre compte de ce comportement, finalement, à la limite que seule l'expérience dévoile, n'est-ce pas, de ce genre de réalité subatomique. Bachelard était à la fois idéaliste et réaliste. réaliste n'a jamais nié la réalité des choses. Et idéaliste en ceci, que les méthodes et les opérateurs que met en œuvre la mathématique la plus raffinée constituent des moyens de serrer de près la réalité même.
La science doit établir une hiérarchie dans les aspects d'un phénomène. Elle doit écarter les traits superficiels, les variables essentielles qui vont permettre une étude scientifique d'un phénomène sont rarement apparentes. Il faut les découvrir et surtout, il faut les coordonner. Si un esprit ne veut pas faire cet effort de coordination systématique des concepts, il ne peut accéder vraiment à la pensée scientifique. De la science, il peut simplement connaître les résultats, il ne peut comprendre la structure. Mais cette coordination des concepts fondamentaux ne donne qu'un premier noyau pour la formation de l'esprit scientifique. La culture scientifique, sous sa forme moderne, réclame de l'esprit une action synthétique à plus large portée. L'esprit scientifique doit rapporter toute expérience particulière à un vaste domaine théorique. Le philosophe qui juge les choses du dehors divise trop crûment la théorie et la pratique. Il méconnaît les liens puissants de l'expérience et de la théorie. Dans la science moderne, un homme de laboratoire, dans toutes ses expériences, met à l'épreuve des théories. Il doit être conscient des synthèses théoriques actives. Mais voici un caractère très important de la synthèse théorique moderne. Toute théorie physique reçoit une structure mathématique très développée. Les cosmologies philosophiques n'ont plus cours. Toute cosmologie est désormais inséparable d'une organisation mathématique. C'est là un fait humain nouveau. La physique mathématique est en effet une science récente. Elle n'a guère que 2 siècles d'existence. Une de ses premières équations a été proposée par D'Alembert à propos du problème des cordes vibrantes. Les premiers travaux systématiques sont sans doute ceux du mathématicien français Fourier sur la propagation de la chaleur. Ainsi, pour vraiment comprendre ce simple phénomène de la propagation de la chaleur, il faut avoir recours à des équations aux dérivées partielles, ce qui suppose un maniement déjà très exercé du calcul différentiel et intégral. La physique théorique moderne n'a fait qu'accentuer cette étroite synthèse des mathématiques et de l'expérience. Les livres de chimie eux-mêmes doivent maintenant tenir compte des résultats acquis par la mécanique quantique. Pour bien comprendre les structures cristallines, il faut connaître la théorie mathématique des groupes. Ainsi, la formation d'un esprit scientifique moderne dans les sciences de la nature réclame une double culture.
Il y a quelques pages dans les Chants de Maldoror qui se calme et s'élève. Ces pages sont un hymne aux mathématiques. Aux mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié depuis que vos savantes leçons, plus douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur comme une onde rafraîchissante. Une tonalité mystérieuse vient de retentir, une gravité vient d'apparaître dans l'œuvre, et si l'on n'est pas sûr de trouver avec l'autre amant un esprit mathématicien, on a du moins l'impression de sonder une âme mathématicienne. Il semble que le fougueux poète ait la soudaine nostalgie d'une discipline, qu'il se souvienne des heures où il arrêtait ses impulsions, où il anéantissait en lui la vie pour avoir la pensée, où il aimait l'abstraction comme une belle solitude. C'est pour nous une preuve extrêmement importante de psychisme surveillé. On ne fait pas de mathématiques sans cette surveillance, sans cette constante psychanalyse de la connaissance objective qui libère une âme non seulement de ses rêves, mais de ses pensées communes, de ses expériences contingentes, qui réduit ses idées claires, qui cherche dans l'axiome une règle automatiquement inviolable. Les quatre pages mathématiciennes apparaissent dans les chants de Maldoror juste après les pages les plus excessives. Et voici l'apparition d'une étrange douceur de la raison. Pendant mon enfance, vous m'apparûtes une nuit de mai au rayon de la lune sur une prairie verdoyante, au bord d'un ruisseau limpide, toutes les trois égales en grâce et en pudeur, toutes les trois pleines de majesté comme des reines. C'est pour l'arithmétique, l'algèbre et la géométrie que l'autre amant écrit cette nuit de mai. On y sent la douce et poétique expansion d'un cœur, en quelque manière non euclidien, ivre d'un non-amour, tout à la joie de refuser la joie de vivre abstraitement la non-vie, de s'écarter des obligations du désir, de briser le parallélisme de la volonté et du bonheur. Ô mathématiques, celui qui vous connaît et vous apprécie ne veut plus rien des biens de la terre, se contente de vos jouissances magiques. Ainsi, d'un seul coup, le lecteur a été transporté aux antipodes de la vie active et sensible. Peut-être devons-nous indiquer aussi une note à peine sensible dans la page, mais qu'il faut toujours réveiller quand on évoque une culture mathématique. C'est précisément la violence, une violence froide et rationnelle. Il n'y a pas d'éducation mathématique sans une certaine méchanceté de la raison. N'y a-t-il pas un lointain souvenir de ces vices spirituels dans cette imprécation lucassienne ? Ô mathématiques, celui qui ne vous a pas connu est un insensé. Il mériterait l'épreuve des plus grands supplices, car il y a du mépris aveugle dans son insouciance ignorante. Gaston Bachelard, L'autre et amant.
C'était un psychisme surveillé. Document INA, Gaston Bachelard, Causerie, 1948-1949. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine, avec la participation de Jean Toussaint de Santi. Texte lu par Claude Royer-Journoux. Collaboration technique, Yvette Hubeau. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique, deuxième partie. Archives, 1947-1962. Cette semaine, les grands travaux scientifiques, suite de figures. Descartes, Leibniz, Newton, 1950, 1953, 1948.
Parmi tous les travaux qui ont occupé la vie studieuse de Descartes, la physique semble bien l'objet d'une prédilection. Dès sa jeunesse, Descartes s'est intéressé à la science de la lumière. Il a été frappé par l'invention des nouvelles lunettes astronomiques. Ces dernières années le montrent attentif aux expériences les plus variées. On ne pourra donc prendre une vue d'ensemble sur cet étonnant esprit, si l'on perd de vue la confiance qu'il avait dans la solidité de son système du monde. L'examen de la signification de la physique cartésienne est d'autant plus nécessaire que cet examen est souvent écourté par les historiens de la pensée philosophique. La physique cartésienne nous place devant un paradoxe insigne. Elle a laissé fort peu de traces dans la physique moderne, et cependant, elle a eu un rôle décisif dans l'évolution de la science. Elle fut en effet un merveilleux instrument polémique qui arrêta toute référence à une science fondée sur l'autorité d'une tradition. Descartes fondait vraiment une méthode constructive et on développait toutes les connaissances physiques. Il donnait l'exemple d'une construction autonome susceptible de rendre compte des phénomènes du ciel et de la terre en suivant une absolue uniformité des principes. L'ouvrage le plus caractéristique de cette grandiose unité de méthode couvrant la métaphysique et la science est le livre publié en latin à Amsterdam en 1644 sous le titre « Principia Philosophiae ». Il fut traduit en français par l'abbé Picot en 1647 sous le titre « Les principes de la philosophie ». Il comprenait quatre parties. Une première, qui a pour titre « Les principes de la connaissance humaine », est un exposé de la métaphysique cartésienne. La physique n'apparaît vraiment que dans les trois dernières parties, qui ont pour titre respectif « Des principes des choses matérielles, du monde visible, de la terre ». Un autre paradoxe se présente à qui étudie dans le détail la physique cartésienne. Cette physique d'un grand mathématicien n'est pas à proprement parler, dans le sens d'aujourd'hui, une physique mathématique. On n'y rencontre aucune équation susceptible de traduire un ensemble de mesures prises sur les phénomènes. Des phénomènes, elle ne retient que le caractère étendu. Descartes croit pouvoir caractériser tous les phénomènes par leurs simples rapports spatiaux. Par exemple, la dureté d'un corps n'est pas pour lui un caractère vraiment matériel. Un corps n'est qu'un morceau d'espace. Un corps n'apporte à son déplacement aucune autre résistance que celle qui résulte de l'encombrement de l'espace ambiant. Pour qu'un corps se déplace, il faut que d'autres corps lui fassent place. Et sa première place est immédiatement occupée par un autre corps. On voit ici la raison fondamentale de la doctrine du plein chez Descartes. Il ne peut y avoir de vide dans le monde parce qu'il ne peut y avoir d'espace qui perde son caractère étendu. Descartes, en toute occasion, a renouvelé son affirmation sur l'impossibilité du vide. Lorsque Pascal parlait du vide à la partie supérieure du tube de Torricelli, Descartes affirmait qu'au fur et à mesure que le mercure descend dans le tube, la matière subtile traverse le verre pour venir remplacer le mercure. L'astronomie de Descartes obéit naturellement à la même intuition du plein absolu. Les planètes paraissent décrire un orbite dans le vide immense du ciel. En fait, affirme Descartes, elles sont entraînées par un grand flux de matière céleste. Elles suivent un prodigieux tourbillon. Le soleil, lui aussi, tourbillonne sur lui-même. Et c'est ce mouvement qui, de proche en proche, anime les tourbillons de matière céleste qui entraînent à leur tour les planètes. De même, les étoiles sont des soleils tourbillonnants qui entraînent des systèmes planétaires différents. Le monde est fait ainsi, de mondes séparés, centrés chacun sur des étoiles tourbillonnants. Ces mondes se touchent. Parfois, un astre passe d'un ciel dans un autre. Telles sont les comètes. On le voit, cette astronomie est figurée. Elle n'est jamais mesurée. Elle est une intuition sur l'étendue. Elle ne résulte pas de longs calculs. L'astronomie cartésienne n'a rien de commun avec l'astronomie newtonienne. L'astronomie cartésienne ne prépare en rien l'astronomie newtonienne. Pour les petites choses, comme pour les grandes, Descartes développe la même explication par la figure et le mouvement. Il imagine diverses sortes de particules, les unes rondes, les autres allongées, les unes cannelées, les autres lisses, qui vont expliquer les propriétés matérielles les plus diverses. C'est la forme géométrique et non les qualités internes qui expliquent les propriétés substantielles. Par exemple, l'eau est composée, pour Descartes, de deux sortes de particules, toutes deux longues et lisses. Les unes sont molles et pliantes, les autres raides et inflexibles, de sorte que si on les sépare, les premières donnent l'eau douce et les deuxièmes donnent le sel. Ces particules ne sont cependant pas des atomes, parce qu'elles peuvent toujours être brisées. Cela encore est une conséquence du principe général qui attache la réalité à l'espace plutôt qu'aux choses. Le seul ciment qui unit deux choses est leur repos relatif. Elles restent juxtaposées si elles ont le même mouvement. L'atome ne peut être admis par un géomètre pur qui voit dans l'espace une possibilité de division sans limite. Une si large synthèse des phénomènes astronomiques, des phénomènes physiques et des phénomènes chimiques, réalisés sur la seule base des rapports géométriques, ne pouvait rendre compte de réalités si diverses. Mais Descartes, par son œuvre solitaire et grandiose, donnait tout de même un exemple de cette audace rationaliste qui se révèle active dans toutes les constructions de la physique moderne.
Gaston Bachelard, 1953.
La philosophie allemande commence par l'œuvre d'un génie de premier plan, d'un génie d'une singulière universalité. On a souvent dit que Leibniz, ce grand génie, était un Aristote moderne. Il aima passionnément connaître et passionnément étudier. Rien de ce qu'étudie l'homme ne le laissa indifférent. Il naît à Leipzig en 1646. À 8 ans, il apprend le latin en déchiffrant toutes livres, sans dictionnaire, dit-il, en cherchant dans le texte un commentaire des gravures du titre livre illustré trouvé dans la bibliothèque de son père. Il apprend à 12 ans le grec par un effort d'autodidacte. Toute sa vie, il restera érudit. À la fin de son existence, il sera historiographe de la maison de Brunswick. L'histoire le mène à la politique. Il voyage en historien actif, en historien qui voudrait agir activement sur le déroulement des événements politiques de son temps. On le voit à la cour de Louis XIV. En 1712, il rencontre le tsar. Il s'offre partout comme un agent de conciliation. Il voudrait refaire l'unité religieuse de l'Europe, réconcilier les catholiques et les protestants. Pour s'instruire en philosophie, très bien différent des études d'un Descartes, il commença par une vaste érudition touchant surtout la philosophie aristotélicienne et la philosophie médiévale. Mais il a très tôt des méditations personnelles. Dès son entrée à l'université, à 15 ans, il ne tarde pas, dit-il, à déserter l'aristotélisme. Il est attiré par l'atomisme. La lecture des modernes, celle de Bacon et celle de Hobbes, le confirme dans les thèses de la mécanique atomistique. Par la suite, les atomes deviendront les monades. Si l'on ne devait lire qu'un livre en une culture générale philosophique rapide, il faudrait choisir un des derniers ouvrages de Leibniz, la monadologie. La monade est la substance du spiritualisme. Elle conjoint le double caractère de la pensée et de l'étendue. Chaque être au monde est une monade, et chaque monade est le reflet plus ou moins clair, plus ou moins conscient de tout l'univers. Entre toutes ces monades règnent ainsi de multiples concordances. Ces concordances ont été fixées par le Créateur dans l'acte même de la création. Telle est la thèse restée célèbre de l'harmonie préétablie. Cette thèse sert de base à l'optimisme du philosophe. Pour Leibniz, le monde est une harmonie. Il est le meilleur de tous les mondes, le plus beau de tous les mondes imaginables. La théodicée expose cet optimisme. Pour prendre une vue plus précise de la variété des problèmes, il faudrait étudier les nombreux petits essais dans lesquels le philosophe a repris, sur des points toujours particuliers, l'examen de sa doctrine générale. Venons donc maintenant à l'activité scientifique de Leibniz. Leibniz est un des plus grands génies mathématiques de tous les temps. Cependant, il arrive à la pensée mathématique moins rapidement qu'à la pensée philosophique. Et il y arrive indirectement. Il n'a pas bénéficié d'un milieu de culture mathématique. Ne dit-il pas, si j'avais passé mon enfance à Paris, comme Pascal, il se peut que j'eusse augmenté plus tôt cette science. C'est par le côté indirect de la logique qu'il aborde les mathématiques. Il est séduit par l'art combinatoire. Cet art des combinaisons mathématiques lui donne l'espoir d'établir une caractéristique universelle, principe d'une langue bien faite. À cet égard, on peut désigner Leibniz comme le précurseur de la logistique moderne. Sa rencontre avec Huygens donne à Leibniz une orientation décisive. Le voici méditant sur les courbes et les surfaces. En 1674, à 28 ans, il fait sa première découverte mathématique sur la quadrature du cercle, de l'ellipse et de l'hyperbole. Réfléchissant sans cesse sur le problème des tangentes aux courbes, il prend une expérience positive sur les infiniment petits. Bientôt, il coordonne toutes ses expériences en mettant au point un algorithme différentiel qui exprime l'essentielle relativité des infiniment petits. Nous voici devant la découverte capitale de Leibniz, le calcul infinitésimal. Dans le même temps, à la même époque, Newton développait un calcul équivalent, appelé le calcul des fluxions, la géométrie des indivisibles que le mathématicien italien Cavalieri publia en 1635, était un calcul infinitésimal avant la lettre. L'importance philosophique de ses recherches sur les quantités infinitésimales n'échappe pas, d'ailleurs pas à Leibniz. Il y voit une bonne occasion pour s'opposer au cartésianisme. À Descartes qui dit dans ses méditations qu'un esprit fini ne peut avoir l'idée de l'infini, Leibniz objecte précisément la science de plus en plus variée que l'homme prend des quantités infinies. Il fait aussi, en philosophie, un grand usage du principe de continuité qu'on peut clairement méditer à propos des quantités infiniment petites, à propos des quantités évanouissantes. Son opposition au cartésianisme s'expose sur des problèmes précis. En particulier, Leibniz a montré qu'en mécanique, la notion cartésienne de quantité de mouvement est insuffisante. Il faut y ajouter la notion de force vive. Leibniz est ainsi à l'origine de la dynamique moderne. Le mémoire de 1686, où il dénonce une erreur mémorable de Descartes, je prends ces termes, ce mémoire est décisif. On trouvera un exposé simple de ce débat dans le beau livre que Leibniz a écrit sous le titre « Discours de métaphysique ». Enfin, le savant chez Leibniz ne se sépare pas du philosophe. Comme il le dit, la physique est subordonnée par l'intermédiaire de la dynamique à la métaphysique. À bien des égards, on pourrait revivre une méditation philosophique centrale en méditant les principes de la dynamique leibnizienne. Ainsi, malgré l'extrême dispersion des problèmes traités par Leibniz, on ne peut pas méconnaître la claire unité du système et de la vie leibnizienne. Ce grand savant, ce grand philosophe, cet homme qui avait voulu, par la pensée, agir sur les événements de son temps, acheva les dernières années de sa vie dans l'isolement le plus complet. Il mourut à Hanovre le 14 juillet 1716.
Gaston Bachelard, 1948.
L'histoire des sciences apparaît comme une dialectique de lente préparation des idées et d'un soudain éclairement des problèmes. Cette lumière soudaine est le don du génie. Il faudrait sans doute de minutieuses études pour préciser les rapports de l'homme de génie et de son temps. Mais certains traits sont si frappants qu'ils peuvent donner rapidement une mesure de l'action d'un grand génie. Newton peut nous servir d'exemple. Tous les historiens font remarquer que Newton est né l'année même où Galilée mourait, en 1642. Il nous retrace son enfance où rien n'annonçait son prodigieux avenir. Il est fils de fermier. Sa mère, veuve et bientôt remariée, décide qu'il cultivera la terre. Mais un oncle l'envoie à l'école. Les progrès de l'adolescence sont si rapides qu'on l'accepte à Cambridge, où bientôt il sera lui-même professeur. On aimerait à suivre dans le détail une telle éducation. Les anecdotes que l'on rapporte en sont innombrables. Elles apporteraient de nombreux traits à une psychologie de l'enfant solitaire, de l'enfant pensif et studieux, de l'enfant qui lit son livre dans les champs sous son arbre. Mais dans cette courte causerie, mieux vaut peut-être souligner ce besoin de solitude au niveau même des géniales pensées. Longtemps, Newton cache ses découvertes. Il ne les communique qu'à regret, avec réticence, en les masquant sous des formules obscures. Et c'est ainsi que se produira, entre Leibniz et Newton, une grande querelle sur la priorité de la découverte du calcul différentiel. Dès 1666, Newton possède une méthode nouvelle pour l'étude des courbes. C'est la méthode des fluxions qui permet de calculer le léger changement par lequel une ligne modifie sa courbure dans l'infiniment petit d'une modification de proche en proche. Newton échange à ce propos des problèmes avec Leibniz qui travaille lui aussi à la création du calcul des quantités infiniment petites, d'un calcul, comme on disait, des petites différences évanouissantes. C'est cet échange de lettres, en 1676, qui donnera lieu par la suite à une longue polémique. Mais enfin, Newton attend jusqu'en 1704 pour publier l'application de son calcul des fluxions à la quadrature des courbes. C'est d'ailleurs aidé par ces mystérieuses méthodes que Newton réussit la découverte qu'aucun homme cultivé ne saurait oublier. Je veux parler de la loi de l'attraction universelle. En supposant que deux corps célestes s'attirent en raison inverse du carré de leur distance, et en raison directe du produit de leur masse, Newton rendit compte de tous les mouvements du système solaire. Kepler avait fixé la forme elliptique des orbites des diverses planètes. Il avait trouvé les lois de parcours d'une planète sur son orbite. Mais la science de Kepler restait une science essentiellement descriptive. Elle ne donnait pas une explication mathématique des phénomènes célestes. Et l'on peut dire qu'une des grandes valeurs philosophiques de la pensée newtonienne, c'est qu'elle fonde une astronomie mathématique, une astronomie où le calcul domine la simple mesure, la simple observation astronomique. Mais où la vue géniale de Newton prend toute sa valeur philosophique, c'est quand il comprend que l'apesanteur dont nous voyons l'action dans la vie quotidienne n'est qu'un cas particulier de l'attraction universelle. Autrement dit, c'est une même cause qui fait tourner les planètes autour du Soleil et tomber les corps à la surface de la Terre. Le mouvement de la Lune autour de la Terre et le mouvement d'Anubis dans la stratosphère suivent exactement une même et unique loi. C'est ici qu'on le dit dans les manuels, l'anecdote de la pomme. C'est en voyant tomber une pomme, dit-on, que Newton aurait tout deviné. Cette anecdote qui est controversée et qui est controversable fait tort au génie de Newton. Mieux vaudrait, pour comprendre l'effort du génie, suivre Newton dans ses doutes et même dans ses échecs, se fondant sur de mauvaises mesures du rayon de la Terre, il crut un instant que sa loi universelle était fausse. Ce n'est que lorsqu'il connut, en juin 1682, la mesure du méridien que Picard venait d'accomplir sur les routes de France, qu'il eut soudain la preuve mathématique de la vérité de son hypothèse. Une troisième grande découverte appellerait les mêmes remarques. Au rang de grandes découvertes, il nous faut mettre en effet l'expérience de la décomposition de la lumière blanche par un prisme de verre. Newton apportait ici une expérience vraiment complète. Il décomposait et il recomposait la lumière. Il prouvait que les sept couleurs violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, étaient des couleurs simples. pour bien sentir l'importance historique de cette simple expérience, de cette expérience qui nous paraît maintenant si simple, il suffit de suivre les polémiques qu'elle a suscitées. Jusqu'au XIXe siècle, des philosophes comme Schopenhauer, de grands écrivains comme Goethe, contestèrent l'importance de l'expérience de Newton. D'ailleurs, cette expérience n'est qu'une pièce d'un immense édifice. L'optique de Newton est une œuvre fortement pensée et très coordonnée. Elle prouve une égale aptitude à développer des théories cohérentes et à faire des expériences précises. Dans cette courte causerie, nous avons seulement voulu montrer comment le génie met sa marque décisive sur les problèmes les plus variés. Dans les trois domaines que nous avons envisagés, en mathématiques, en astronomie, en optique, Newton marque une ère nouvelle. Sans doute, par bien d'autres traits, Newton est un homme comme les autres. Il est un anglais de son temps, un protestant de son temps, un fonctionnaire de son roi. Si on le suivait jusqu'au terme de sa longue vie, en 1727, on aurait bien souvent à signaler d'étranges éclipses de son génie. Mais la vie humaine ne fait que mieux voir le sens de la vie géniale. Nul plus que Newton ne prouve que le génie est une exception, et qui plus est, que les années de génie sont une exception dans la vie d'un homme de génie.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard bis, archive. Cette semaine, les grands travaux scientifiques, suite de figures. Aujourd'hui, Descartes, Leibniz, Newton. 1950, 1953, 1948. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Philippe Palares, Hervé Evanneau, Marc Hubert Florio. Oh,